Les grandes voix d'Europe 1, chaque samedi, chaque dimanche, on débat jusqu'à 19h avec ce soir Laetitia Krupa, journaliste politique. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, de retour avec nous. Frédéric, bonsoir.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Et le spécialiste en communication politique, Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG, conseil prof à Sciences Po. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Wendy.
Les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire vacciner. Vous nous en direz ce que vous en pensez. On faisait le point et le constat avec Axel Kahn il y a un instant. L'idée d'un passeport vaccinal aussi, qu'en pensez-vous? Être en règle avec son immunité pour pouvoir voyager notamment. C'est une enquête IFOP, on va la détailler dans les minutes qui suivent, même si le gouvernement à ce stade est réticent et juge l'idée prématurée. Il y a aussi cet amendement dans l'actualité dont j'aimerais vous parler, Aurore Berger, qui quelque part défie le gouvernement avec cette interdiction du port du voile chez les petites filles. Au nom de la lutte contre les séparatismes, est-elle courageuse et faut-il souscrire à cette intransigeance? On sera aussi ensemble sur le sujet.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
Mais d'abord, pour commencer ce tour de table, l'actualité vue au travers de vos coups de cœur, de vos coups de griffes. Et vous griffez ce soir, Frédéric Dabi.
Oui, c'est un coup de griffe, Wendy, adressé à Camélia Jordana. Récemment interviewée dans l'Obs, la chanteuse et actrice déclare notamment, au milieu de propos sur la promotion de son 4e album, que si elle était un homme, elle demanderait pardon. Je la cite, « Je questionnerai les peurs, je prendrai le temps de m'interroger, car les hommes blancs sont dans l'inconscient collectif responsables de tous les maux de la Terre ». Alors, ces propos, tous les mots de la Terre,
oui,
ces propos
mignon,
qu'on
c'est...
peut qualifier à minima de très excessifs ont suscité la polémique, ils ont enflammé les réseaux sociaux, ils ont été qualifiés de racistes, mais je vais essayer de prendre un peu de distance. Il y a trois réflexions qui me viennent quand je vois cette polémique et quand j'ai lu en entier l'interview de Camélia Jordana.
Jordana, oui.
D'abord, trois réflexions. D'abord, clairement, elle se tire une balle dans le pied. De cette interview plutôt intéressante, où elle fait montre d'une réelle maturité, où elle explique ses choix artistiques, où elle revient sur son identité franco-algérienne, il ne restera rien, excepté ses propos polémiques. C'est un peu la même logique, Wendy, que lors de cette émission avec Laurent Ruquier, où elle avait dit que des gens se faisaient massacrer par la police tous les matins en allant travailler. Tout ça avait cannibalisé son propos et ça la met dans une sorte de polémique perpétuelle. Surtout, les propos de Camélia Jordana constituent une sorte de précipité presque chimiquement pure de ce qu'est devenu l'époque, avec cette nouvelle grille de perception du réel pour une partie de la jeunesse, une partie minoritaire mais non négligeable, à savoir une grille identitaire, victimaire, racialiste, qui assigne les individus à résidence pour ce qu'ils sont, des hommes blancs, des femmes qui sont victimes, et pas pour ce qu'ils font. Et c'est cette grille de lecture globalisante qui va contre l'universalisme à la française, qui prête le flanc aux soupçons, dans les propos de Camélia Jordana, de racisme anti-blanc. Et d'ailleurs, il y avait une enquête, on en avait parlé ensemble la saison dernière, IFOP fiduciale pour CNews, qui montrait qu'un Français sur deux, 47%, considérait que le racisme anti-blanc est une réalité. Enfin, on est en droit quand même de s'interroger sur la responsabilité de l'émetteur, à savoir l'Obs, vis-à-vis de cette interview.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, oui.
Bien sûr, l'Obs, c'est quand même le journal de Jean Daniel, hein,
oui,
n'a pas à censurer les propos de Camélia Jordana, mais on a attendu vainement de la part de la journaliste Sophie Delassin, qui a recueilli les propos de Camélia Jordana, d'une mise en perspective, d'un débat contradictoire, du moins une petite relance du genre « Mais que voulez-vous dire par « les hommes blancs sont dans l'inconscient collectif responsables de tous les maux de la Terre » ?» On a ce déversoir, pardon, de propos, de ce point de vue-là, assez ridicule et caricaturaux.
Oui, ce qui fait que l'Obs, en effet, on a le sentiment que le journal offre une tribune à ces propos racialistes dont vous venez de faire écho ce soir, Frédéric Dabi. Réaction, Laetitia Krupa, à ces mots
de l'artiste ? J'ai une question à poser. Qui est Camélia Jordana ?
C'est une question qu'on peut poser. Alors, elle a son public. Hein.
Non,
elle vient de la Nouvelle
la pose,
Star. C'est une artiste qui fait pas mal de cinéma
voilà,
maintenant.
C'est
un quatrième
très
album.
Beau film avec un homme de plus de 50 ans.
Daniel Auteuil, ouais. Très souvent, en fait, je suis premier degré parce que je crois que c'est la meilleure façon d'être journaliste. Donc, de poser des questions premier degré, factuelles. Qui est-elle? Une chanteuse. Donc, on se calme. La réaction de Christophe Castaner à l'époque, après On n'est pas couché, était, à mon sens, ridicule. On ne doit pas prendre la parole lors d'un point presse pour répondre à une artiste. Elle a le droit d'avoir ses positions, elle a le droit d'avoir ses visions, elle n'est ni élue, elle n'a pas de mandat, elle n'est pas leader d'opinion.
Non, mais elle fait la une de
peut-être...
l'Obs.
Non, mais certainement, mais enfin, bon, après, je ne vais pas être méchante sur l'Obs, mais enfin, on est dans une toute petite niche. Vous savez, nous, on est très captifs de tout ce qui se passe médiatiquement, mais vraiment, descendez dans la rue, je ne sais pas qui a lu l'Obs, je ne sais pas qui a entendu parler
de cette polémique. Ce ne sera pas le sujet de conversation
principale.
Mais
ce que je veux dire, c'est remettons les choses à leur place. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, je ne dis pas, voilà, je ne juge pas ses propos, je dis juste, gardons notre calme et les distances.
Mon propos, c'était l'idée que c'était révélateur d'une époque où la grille de lecture, qui n'est plus une lutte des classes, mais une lutte des races, s'impose de plus en plus dans le discours, dans le quotidien, y compris dans le champ politique.
Oui, ça peut être intéressant. Philippe, vous voulez réagir là-dessus ?
Oui, ça fait longtemps qu'aux États-Unis, en fait, la confrontation entre les deux gauches, une gauche identitaire et une gauche qui est marxiste, traditionnelle, qui parle de lutte des classes, ça fait très longtemps qu'elle a lieu. En France, ça commence à arriver. Ça va avoir un rôle en 2022 parce que c'est une des raisons qui font, par exemple, qu'Hidalgo a du mal à gérer sa majorité à Paris parce qu'elle a été élue avec des écolos qui sont très branchés sur cette grille d'analyse, donc qui sont très Camélia Jordana. Et alors qu'Hidalgo est plus gauche traditionnelle, il ne faut pas se tromper, c'est un clivage majeur et on va vivre avec pendant des années.
Frédéric Dabi.
Oui, je partage complètement ce que Philippe vient de dire. On avait parlé il y a quelques années de deux gauches irréconciliables. Ça traverse aussi ce clivage. Anne Hidalgo a posé un acte très lourd en attaquant, c'est rare, très directement une partie de sa majorité écologiste. Je rappelle les faits, c'était quand même une abstention des élus écologistes sur le fait que Samuel Paty devrait avoir une rue à Paris. Alors ils ont évoqué des problèmes techniques, mais c'était une abstention. Et c'est clair qu'elle crée de ce point de vue-là une distinction et elle installe clairement, et là je reprends ce que dit Philippe dans la perspective de 2022, une ligne de fracture avec les écologistes et aussi de manière plus indirecte avec Jean-Luc Mélenchon pour lequel le courant insoumis est complètement traversé par ces courants indigénistes. Est-ce que c'est les insoumis Corbière ou les insoumis Daniel Obono? Ouais. C'est aussi la question qui se pose.
Frédéric Dabi, merci pour ce coup de griffe qui dit beaucoup aussi de cette fracture sociétale et éthique peut-être même. Laetitia Krupa, coup de cœur ce soir, clairement.
Un coup de cœur pour le hashtag MeTooInceste qui depuis hier midi sur Twitter enregistre des milliers de messages à l'image de ce qui s'était passé évidemment en 2017 avec le hashtag MeToo. C'est une suite de ce hashtag MeToo. Cette fois, ça se passe en France. Le mouvement a été lancé par le collectif Nous Toutes qui a fait en fait une consultation auprès de ses militants actifs en demandant comment vous avez envie de témoigner. Et il y a eu 1600 réponses et la majorité a dit avec un hashtag. Donc ça nous montre parfois que les réseaux sociaux sont puissants et qu'ils ont un fonctionnement vertueux. Il y a aussi des vidéos sur Instagram. Vous imaginez le courage de tous ces témoins et qu'ils le font sur les réseaux sociaux. J'ai choisi certains tweets au hasard pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux pour qu'ils aient un peu conscience de ce qu'il se passe. Grand-mère Cal, c'était de 4 à 13 ans, c'était mon frère et mes cousins. Ma famille ne m'a jamais cru pour le viol et les attouchements, je me suis construite avec ça. Anne-Marie Jauvert, j'avais entre 11 et 14 ans, c'était mon frère. J'ai 57 ans et je suis toujours victime de ce passé. Hormis ma fille, je n'ai jamais rien construit. Laure Blanchard, j'avais 11 ans, c'était mon oncle. J'ai parlé, omerta familiale, comme souvent. Ma cousine a été victime aussi. Après plus de 20 ans de souffrance, elle est décédée à 52 ans. Elle avait fini par le dire. Il y a aussi des témoins, des personnalités publiques qui ont le courage de témoigner. Et je suis vraiment favorable à ce mouvement parce que cette parole libérée doit absolument être entendue. Et nous avons un rôle, nous médias, de la relayer. Ça commence sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi la responsabilité de la radio, de la télévision, de la presse, de relayer cette parole libérée. Évidemment, on verra comment le politique va s'en saisir. Les associations sont très mobilisées, notamment elles demandent des grandes campagnes d'information pour faire une prévention massive, mais on verra aussi, Wendy, comment la société va réagir. Est-ce que, oui ou non, on est prêt à changer et, comme l'écrit Camille Kouchner, faire en sorte que les victimes ne soient plus coupables et ne se croient plus coupables.
Merci de le dire, de le souligner, Laetitia Krupa, cette parole qui se libère. On l'évoquait déjà un peu hier. Est-ce que ce gouvernement aura le courage de marquer aussi ce quinquennat avec l'âge légal de non-consentement qu'elle pourrait fixer, comme le veut le collectif de l'enfance, à 18 ans, Frédéric Dabi? Voilà encore sujet.
C'est un très beau sujet. C'est ce que j'ai lu aussi, toute une série de témoignages absolument terribles. J'ai en tête une personne qui s'est suicidée à 18 ans alors qu'elle avait un enfant de 3 ans qui avait été violée par un oncle. Cette libération de la parole, après cette chape de plomb, après ce déni, je rappelle que le mot inceste est inscrit dans le code pénal depuis seulement 2016. Et c'est intéressant ce que dit
2016.
2016 seulement. 2016. Ouais. C'était dans un numéro dans l'Obs, assez intéressant, où avec, il avait une interview de Camille Kouchner. Et dans ce que dit Laetitia, je rebondis sur l'idée de campagne de communication. Mmh. Ce gouvernement a fait des choses très bien sous la houlette de Brigitte Macron sur le harcèlement scolaire. Il y a eu il y a quelques temps, quelques semaines, une première campagne d'envergure pour dire halte au harcèlement scolaire. Il y a eu le suicide de la jeune Evaël qui a été une véritable déflagration. Peut-être que dans quelques temps, il sera intéressant de faire, d'ouvrir les portes et les fenêtres sur cet inceste. Une enquête de mes confrères Ipsos ont montré qu'un Français sur dix, alors le chiffre est absolument vertigineux dans une logique d'extrapolation, se sent déjà été victime de ce type de crime.
Oui, c'est terrible. On y reviendra à 19h50 avec mon invitée. Elle s'appelle Isabelle Steyer. C'est une avocate militante pour faire évoluer la loi en faveur du droit des femmes, du droit de l'enfant. Elle se bat contre les violences conjugales et contre la maltraitance faite aux enfants. On va terminer ce tour de table avec votre coup de gueule, Philippe Moreau-Chevrolet, ce soir.
Alors c'est un coup de gueule parce que ça part d'une bonne idée. C'est quelque chose qui part d'une très bonne idée et qui est plutôt très sympathique. Et qui est contestable, disons, dans son principe, si on veut. Alors, je m'explique. Brigitte Macron a fait un clip de promotion avec Didier Deschamps et Camille Combal pour les pièces jaunes. Et le clip est plutôt réussi, c'est-à-dire qu'on voit Camille Combal qui surjoue un peu le Hanouna, qui propose des idées absolument immanquablement débiles.
Oui.
Pardon ?
Vous voulez qu'on en écoute un extrait ?
Ah oui, volontiers.
On peut mettre des mots. Alors, on est dans une salle de brainstorming et c'est en effet Camille Combal qui propose ses idées un peu saugrenues à Brigitte Macron, qui l'écoute, regard écarquillé, écoutez.
On vous met dans un costume de tirelire comme ça. Vous chantez, vous mettez l'ambiance, mais en même temps, on fait passer le message des pièces jaunes.
Camille, on ne s'emballe pas. Cette année, il n'y a pas de tirelire. Crise sanitaire oblige. C'est une digitalisation de l'opération.
Petite tulasse, je sais. Dals, vous faites le prochain casting de Danse avec les stars. Oh, c'est chic! C'est inattendu.
Sur un tcha-tcha, Brigitte Macron.
C'est top, on y est déjà.
Plutôt rock, Camille.
Là, voilà. Donc, elle joue le jeu pour l'opération Pièce Jaune. Hein. C'est ça qu'on retient, Philippe Moreau-Chevrolet.
Oui, c'est plutôt drôle au sens où on aimerait vraiment beaucoup voir Brigitte Macron dans Danse avec les stars ou Mask Singer, mais on sent que ça ne va pas le faire. En gros, ils leur proposent des idées débiles, ils réagissent comme ils l'ont fait, c'est-à-dire bon, ils sont en train de débiter des arguments pour les pièces jaunes, mais c'est assez bien joué. Donc, moi, j'avais vraiment l'impression de voir mes parents confronté à leur installateur de Wi-Fi, vous voyez, c'est la même angoisse. Oui. De quoi il me parle, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est plutôt marrant. Après, par ailleurs, c'est une marque d'autodérision. Et s'il y a un truc auquel on n'a pas été très habitué avec l'exécutif actuel, c'est l'autodérision. Et finalement, ça leur va bien, se moquer de soi-même. C'est quand même le début d'une forme de lucidité. C'est intéressant, c'est rigolo. On peut rigoler, on peut partager des choses aussi. Par l'autodérision, il n'y a pas que l'esprit de sérieux. Bon, après, sur le fond, ce qui est un peu plus embêtant, moi, ce qui m'est un peu plus gêné, c'est que, d'une part, il y a une idée de communication politique derrière, c'est-à-dire que Brigitte Macron, elle reprend, comme son mari le fait par ailleurs, les pas de Bernadette Chirac. Mmh. Et elle ne le fait pas innocemment, elle le fait parce qu'en termes d'image politique, elle et son mari cherchent à s'identifier à cette grande histoire politique. Et au fond, ça reste de la communication politique, ça reste un petit peu cette idée qu'on doit, pour être crédible, ressembler aux anciens présidents, ce qui ne me semble pas forcément le plus pertinent aujourd'hui.
Simplement, elle est légitime pour le faire parce qu'elle préside la fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, hein, et donc cette opération Pièce
Jaune. Oui, c'est ça. Elle apprend. En fait, quand Bernadette Chirac a renoncé à ce mandat, elle l'a repris derrière.
Oui.
Puis la deuxième chose qui est le vrai aspect gênant, c'est que c'est au profit des hôpitaux. Alors bon, c'est bien de donner de l'argent aux hôpitaux et de collecter de l'argent pour les hôpitaux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais la réalité là, c'est qu'on est toujours en train de fermer des lits alors qu'on est en pleine crise. Hein. On n'a pas donné aux médecins la revalorisation qu'ils souhaitaient, aux infirmiers non plus. Ils ne sont pas vraiment plus avancés en termes de matériel qu'avant la crise. On a peur d'une pénurie d'aiguilles, par exemple. Mmh. Ils se battent pour être vaccinés. Alors, à force d'insister, on a décidé qu'on pouvait vacciner les soignants, mais il a fallu quand même beaucoup se battre. Et donc, moi, je veux bien qu'on fasse appel à la charité pour financer l'hôpital. C'est très bien, et au fond, on n'a rien à reprocher à l'opération Pièce Jaune. Mais dans la période qu'on traverse, dans le contexte actuel, c'est un peu étrange. Voilà.
Ouais, et un peu léger à vous entendre. Vous voulez réagir Frédéric Dabi?
Je serai un peu moins sévère que Philippe. C'est la campagne annuelle de cette très belle opération Pièce Jaune qui ne sert pas qu'à l'hôpital. Hein. Il y a la maison de Solène, la maison des adolescents. Il y a Donnons des couleurs à l'hôpital pour les personnes âgées. C'est vrai que le contexte sanitaire où on voit cette crise terrible, ces dysfonctionnements terribles du milieu hospitalier, j'ai lu le livre de Philippe Juvin qui raconte de manière très anecdotique tous les blocages, tout ce à quoi les soignants ont dû faire face, peut gêner. Mais de ce point de vue-là, Brigitte Macron s'inscrit dans, d'une part, ce que les Français attendent des Premières Dames, c'est-à-dire des actions humanitaires et caritatives, et puis la suite de Bernadette Chirac, qui a vraiment présidé, j'ai assisté à des réunions elle-même avec le préfet Bernard Niquet, à toute une série de choses très concrètes qui a fait beaucoup, notamment sur l'autisme et le suicide, la prévention du suicide des adolescents.
Oui, sur l'accompagnement des personnes âgées à l'hôpital. Pour terminer, Laetitia.
Ouais, honnêtement, très rapidement, je pense que c'est le meilleur atout d'Emmanuel Macron en termes d'image, Brigitte Macron. Et je trouve qu'elle est sous-exploitée. Je vous assure qu'il y a une timidité des conseillers pour ne pas exploiter davantage l'épouse du président de la République. Honnêtement, moi, j'y serais allée beaucoup plus radicalement et ça aurait peut-être aidé à redorer le blason d'un Emmanuel Macron qui semble complètement hors sol.
Elle y vient, elle y vient. Demain, interview sur TF1. Laetitia Cruzpa, Philippe Moreau-Chevrel et Frédéric Dabi, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant avec le débat sur la nouvelle séquence de vaccination. L'appétit, manifestement, désormais des Français pour le vaccin, ça change, c'est bien. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix en débat jusqu'à 19h. Laetitia Cruzpa, Philippe Moreau-Chevrolet, Frédéric Dabi avec nous. On a deux gros sujets à évoquer en peu de temps, mais je voudrais qu'on y parvienne. D'abord, ce passeport vaccinal qui fait écho aussi au fait que les Français sont de plus en plus enclins à se faire vacciner. Ça bouge très clairement. Vous qui représentez l'IFOP, Frédéric Dabi, dans les sondages, c'est positif.
Oui, tout à fait. Il y a 15 points de plus d'intention de se faire vacciner entre le 1er décembre et la dernière enquête IFOP fiduciale pour CNews. À 54%. Mais Wendy, on avait dit ensemble le 2 janvier dernier que ce n'était pas une défiance. Il y a une sorte de contresens sur les sondages.
Ça. Ils étaient inquiets ou ils doutaient.
C'était une sorte d'attentisme.
C'est ça.
La défiance, les anti-vaccins, c'était une enquête d'Ipsos, c'est 7 à 10% des Français. Et c'est vrai que tout le monde est peut-être tombé dans le piège, journaliste, sondeur, sur dire les Français ne veulent pas se faire vacciner. Ils étaient simplement attentistes. Maintenant, ils voient de plus en plus et on en parlait en termes d'ambassadeurs, les personnes vaccinées sont les meilleurs ambassadeurs pour dire que c'est la meilleure manière de sortir de la crise, de retrouver le cours des jours heureux, et très clairement. Et le sondage parallèle qui a été publié ce matin par le Parisien montre la même chose, c'est-à-dire que le passeport vaccinal, il ne faut pas voir les réponses à la question, mais le signe qui est 62% des Français qui sont favorables, par exemple, pour prendre l'avion, pour visiter un proche dans des EHPAD, c'est le signe que il y a clairement maintenant un retournement d'opinion. On est passé de l'attentisme à l'adhésion sur le vaccin comme la sortie de crise ultime de cette terrible crise
de la
COVID-19.
Mais vous avez raison, Frédéric. C'est pour ça que c'est quand même hyper étrange d'entendre le gouvernement sur cette question carrément le balayer d'un revers de main.
Enfin,
c'est pas d'actualité. Oui. On comprend la Grèce. C'est Clément Beaune qui disait ça aujourd'hui. On comprend la Grèce. Elle est en train de préparer sa saison touristique. Je trouve que c'est assez méprisant. Enfin, on a toujours un gouvernement qui ne comprend pas ce que dit la majorité des Français. Je ne parle pas de la globalité de l'opinion
qui
publique.
Qui ont envie d'un sésame pour reprendre une vie normale.
Oui, et puis on peut parler de ce qui va se passer dans les prochains mois. Le gouvernement ne cesse de réagir à ce qui vient se passer. Donc c'est trop tard. Il est toujours en réaction, à courir après. Là, on propose un sujet dont on peut débattre et qui sera peut-être d'actualité dans quelques mois, mais pourquoi ne pas s'en saisir tout de suite ?
Philippe,
pourquoi et tout de suite dire ? Et en plus, je vous assure que c'est vraiment, il y a quelque chose de comme une attitude très fermée de dire ce n'est pas d'actualité.
Oui,
on,
pas
dans
ce tact, stade.
On parle d'autre chose.
Alors
mais
il le dit quand même, Clément Beaune, ce serait choquant, d'octroyer.
Sur le passeport vaccinal, j'ai une conviction qui est assez simple, c'est qu'on peut soit organiser les choses, c'est-à-dire appeler ça un passeport vaccinal, délivrer un passeport vaccinal, et en gros légaliser ça et encadrer ça au niveau des pouvoirs publics, soit laisser le marché faire les choses, mais il y aura de toute façon un passeport vaccinal. On sera obligé de se faire vacciner pour aller dans un certain nombre de destinations à l'étranger, pour aller dans un certain nombre de lieux où il y aura du public. Je ne vois pas comment on va échapper à ça, en fait. Le fait que les Français se rallient à cette idée, c'est juste que ben, d'abord, on est une nation qui aime bien les papiers, hein. Et puis ensuite, parce que ça restaure une forme de rationalité. Voilà, j'ai le droit d'aller quelque part parce que j'ai un passeport. C'est beaucoup mieux quand même, hein, qu'une jauge qui est forcément imprécise à la tête du client, que finalement j'ai le droit d'aller faire du sport, mais entre 16h15 et 16h45, s'il pleut pas et si on n'est pas dimanche. Donc ce sont des critères clairs, et je pense que tout le monde aspire à une forme de normalisation.
Et vous avez raison de dire, Laetitia, ouvrons le débat, ne fermons pas d'un coup d'un seul cette discussion. Dans l'actualité, on va reparler de ce passeport de toute façon, il y a cet amendement porté par la députée LREM, Aurore Berger, qui veut interdire le voile aux petites filles, acte de soumission que ce voile, malgré l'opposition de l'exécutif. Elle défie donc sa propre famille politique dans un contexte particulier pour elle et pour la majorité. Frédéric Dabi, comment vous comprenez, vous concevez
alors,
sa posture?
Alors, il n'y a pas de sondage. Bien sûr, elle va être en décalage avec une partie de la majorité présidentielle, notamment l'aile gauche, mais je pense qu'elle s'inscrit complètement en continuité avec les attentes et les demandes des Français qui voient de plus en plus la question du principe laïque comme mettre la religion en dehors de l'espace public, faire reculer son influence et donc protéger les plus jeunes. Donc je pense que cet amendement va être, à mon avis, très fortement soutenu s'il y a des questions d'opinion et pourrait être un véritable caillou dans la chaussure, dans le cadre de cette loi sur le paradisme, même si il va se poser toute une série de problèmes, notamment la focalisation sur le voile. Alors que d'autres lois n'étaient pas sur une logique de focalisation sur le voile en tant que tel.
Mais c'est le problème, c'est qu'elle a été jugée irrécevable par la commission de l'Assemblée nationale qui est censée accueillir le projet de loi demain. C'est Aurore Berger qui le fait savoir.
Vous imaginez l'application. Moi, je raisonne en termes d'image aussi. L'application de cette mesure, si des petites filles se présentaient à l'école ou dans un espace public avec un voile et qu'on l'enlevait à une petite fille, imaginez ce qu'en termes de violence...
Les petites filles n'ont pas le droit d'être dans une école publique avec un voile. Déjà, il faut remettre...
Oui, d'accord. Alors, dans ce cas, pourquoi passer cet amendement?
Clairement.
Non, mais c'est irrecevable.
Pourquoi passer cet amendement? Parce que si l'amendement ne correspond pas à une réalité... Il n'y a pas de lieu de le passer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la première fois qu'on aura une image qui montrera une petite fille à qui on enlèvera le voile, encadrée par des policiers, ça ne va pas du tout bien se passer. C'est traumatisant pour l'enfant. Et moi, avant de réglementer sur l'enfance, je réfléchis à deux fois parce que les traumatismes y restent. On l'a vu dans d'autres domaines.
Oui,
On
brandira quoi, Philippe? Le fait qu'on interdit toute forme de soumission à une loi différente et de celle de la République.
Ça mérite débat. On n'est pas tous d'accord. On n'a pas. Donc, vous imaginez bien qu'on peut débattre de ça et le rendre irrecevable. Ça ferme le débat. Or, je vous rappelle que dans l'exécutif et dans le gouvernement, il y a par exemple Jean-Michel Blanquer qui est favorable et qui est dans le même positionnement qu'Aurore Berger. On lui a demandé gentiment, Jean Castex lui a demandé de se taire et de surtout pas soutenir l'amendement. Mais enfin, l'absence de débat tue, encore une fois, l'exercice du pouvoir. Ça, il faut qu'ils comprennent ça une bonne fois
pour toutes. Je suis désolé, mais on ne va pas débattre de chaque mesure proposée par le Front National. Le Rassemblement National aujourd'hui...
Aurore Berger, ce n'est pas le Rassemblement National.
C'est soutenu par la République. Je pense que le message qu'on a envoyé à Aurore Berger aussi, c'est qu'elle n'est plus tout à fait la République en marche. Elle prépare autre chose.
Ça, c'est vous qui dites, Philippe. C'est le problème.
Et
notre débat est très intéressant. Oui. C'est le problème de l'identité, de l'ADN de la République En Marche, qui est, depuis 2017, une page blanche, qui est une surface de projection de gauche et ou de droite. Et c'est vrai, on peut dire, Aurore Berger est de droite ou pas, la République En Marche ou pas.
Républicaine, on peut lui reconnaître.
Oui, et puis ce débat est en continuité avec un débat qui a été imposé par Jean-Michel Blanquer sur l'accompagnement des sorties scolaires par des femmes voilées, où là, l'opinion est clairement à trois quarts sous la ligne Blanquer.
On en reparle la semaine prochaine, chers amis, ce sera recevable, la discussion chez nous. Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, Philippe Moreau-Chevrolet, merci infiniment. Ce débat des grandes voix qui capte de plus en plus d'oreilles et de paires d'oreilles, et j'en suis très heureuse pour vous et pour la qualité de ces échanges. Merci, on se retrouve dans un instant avec le journal.